Comme depuis à peu près toujours, la question de la sécurité du revenu fait l'objet de discussions entre les agriculteurs et le ministre. Bien sûr, j'en ai discuté avec Pierre Paradis, mais nous avons aussi abordé bien d'autres questions. Tout d'abord, la question des importations de lait diafiltré. On peut faire l'extension aussi avec certains produits de la volaille là, qui posent des problèmes là, pour les éleveurs de volaille. Est-ce qu'Ottawa s'est engagé sur un échéancier quelconque? Qu'est-ce qui s'en vient concrètement là?
Vous avez raison de faire le lien également avec les producteurs de volaille. Eux autres aussi se font, comment je peux dire ça, déjouer sur le plan de la frontière. Le lait diafiltré est d'une simplicité à régler comme tel quand vous faites l'analyse du problème, et les agriculteurs l'ont bien fait. Le camionneur américain qui arrive au poste de douane déclare qu'il ne s'agit pas de lait parce qu'il faudrait qu'il paie des droits assez élevés, merci. Il déclare que ce sont des protéines alimentaires. Une fois traversé la frontière, l'Agence canadienne d'inspection des aliments dit que c'est du lait, donc on peut le mettre dans les fromages, on peut le mettre dans les yogourts, etc. On ne peut pas avoir deux agences fédérales qui ont une interprétation différente du même produit. La solution simple pour garder la paix avec nos amis américains, c'est de dire « quand tu me déclares que c'est des protéines alimentaires, je te crois ». C'est pas du lait.
Mais justement, on dit dans les milieux agricoles, chez les producteurs, que justement, on essaie de protéger les relations avec les Américains sur le dos des producteurs laitiers.
Il n'y a pas strictement les producteurs laitiers qui sont inquiets. Vous avez également les producteurs de bois d'œufs qui ont également des démêlés. On sait que ça foisonne d'activités politiques présentement du côté américain. Habituellement, les échéances sont au début du mois de novembre. À partir du moment où ces échéances-là, on souhaite que ça se règle avant, là, mais si ça ne se règle pas avant, ces échéances-là vont faire en sorte que peut-être il va y avoir des modifications.
Vous parliez aussi de certains prix sur le marché, entre autres le porc qui a baissé beaucoup. Ça m'amène à vous poser la question sur la sécurité du revenu. Certains groupes de producteurs ont voté sur le retrait des programmes d'assurance stabilisation des revenus agricoles, privilégiant plutôt des programmes agri. Par contre, on voit l'Union des producteurs agricoles et certaines fédérations qui arrivent et à la suite de ces votes-là et qui disent oui pour les programmes agri, mais on voudrait quand même un programme parallèle qui nous aiderait en cas de situation particulière. C'est faisable, ça, avoir un double système?
Le problème, c'est qu'il y avait de l'arrimage entre ces programmes-là. Et les agriculteurs ont voté en toute connaissance de cause. Nous, on n'a pas fait campagne, le ministère de l'Agriculture, ni la Financière agricole. Certaines fédérations de l'UPA ont fait campagne. Il y a une fédération qui a décidé de rester avec l'assurance stabilisation, les producteurs de pommes. D'autres ont choisi d'aller avec les agris. Qui a fait le meilleur choix, moi, c'est l'avenir qui va le dire. Parce que les programmes agri existent dans les autres provinces canadiennes. Les programmes ASRA, il n'y a pas de comparable dans les autres provinces canadiennes. Donc, on a commencé les discussions sur les négociations de l'amélioration des programmes agri pour la période 2018-2023. Il y a une période, je vais demeurer très vigilant jusqu'à temps qu'on atteigne 2018, parce que s'il fallait qu'il y ait un effondrement des prix, on n'a jamais abandonné les agriculteurs au Québec, puis c'est pas notre intention de les abandonner. Maintenant, ceux qui ont choisi ASRA, ils ont choisi une compagnie d'assurance qui était déficitaire, mais qui est devenue profitable. Ils ont choisi la réassurance avec l'argent qu'on a déposé en leur nom à la Caisse de dépôt. Ceux qui ont choisi les agris ont misé sur la bonification des programmes fédéraux comme tels. Je pense qu'on a joué gagnant-gagnant avec les outils qu'on avait. Puis moi, je respecte la démocratie des producteurs.
On semble noter, et ça encore là, il y a des économistes qui le disent aussi bien à Ottawa qu'à Québec, que les investissements dans le monde agricole ont ralenti. Comment le voyez-vous, ça? Est-ce que c'est un signe d'inquiétude réelle ou c'est une question de contexte très momentané?
Il y a de l'inquiétude réelle. Si vous vous fiez aux économistes sur le plan de la planète, l'international, il y avait un article justement dans la revue The Economist il y a 18 mois à peu près qui disait « la fin de la nourriture bon marché »,« the end of cheap food ». Donc, à long terme, les perspectives sont bonnes. Maintenant, les gens sont habitués en agriculture. Vous subissez des soubresauts comme tels. Les ententes internationales, que ce soit l'entente avec l'Union européenne ou l'entente avec l'Asie-Pacifique, ont été une source d'inquiétude pour les agriculteurs. Maintenant, ils savent, puis ça ralentit les investissements aussi. On est un petit peu responsable, entre autres, dans la production porcine, du ralentissement des investissements au niveau de la production. Remarquez qu'au niveau de la transformation, là, il y a beaucoup de modernisations qui se sont faites, soit par la coop fédérée, par F. Ménard, par ASRA, par Dubreton, à peu près tout le monde a réinvesti. Mais on a annoncé dans le dernier budget qu'on préparait l'avenue d'un programme Agro-Renault. Et là, ce que les producteurs font dans ce temps-là, ils attendent de savoir combien. À partir du moment où ils savent combien, ils se mettent à réinvestir. Donc, oui, il y a de l'inquiétude conjoncturelle. Les perspectives à moyen et à long terme sont intéressantes. Moi, j'étais à Expo Champs la semaine dernière. Il y avait pour tout près de 200 millions d'équipements agricoles sur les terrains. Puis il y avait des transactions qui se faisaient. Il y a même des agriculteurs qui m'ont invité à venir voir les transformations de leur étable avec des robots, etc. Ça commande des investissements en haut d'un million par femme. Moi, je le dis, je le répète, l'agroalimentaire, c'est la principale source de développement économique au Québec. C'est 10 % de la richesse collective des Québécois.
Mais il y a des secteurs où c'est urgent, il faut investir. Secteur porcin, vous l'avez mentionné, notre parc de bâtiments est très déficient actuellement.
Oui, je partage complètement l'analyse. La moyenne d'âge des bâtisses, là, qui ont une durée d'utilité de vie d'à peu près 22 ans, est rendue à 18-19 ans. Il faut le faire en fonction de critères environnementaux. Vous assainissez l'air en fonction de critères de bien-être animal. Vous n'avez plus vos animaux en cage comme tel. Et ça, ce sont des virages qu'on nous sommes condamnés à prendre. Je regardais même en fin de semaine, je ne veux pas faire de publicité pour personne, mais la ferme McDonald's dit on n'achèterait plus de poulets qui ne sont pas élevés en liberté. Le message est clair. Hein?
Justement, ça m'amène sur le bien-être animal. La loi est votée. La loi est passée. Des gens s'inquiètent de voir la réglementation pas encore très claire, pas encore très définie pour plusieurs des aspects de la loi.
Oui, oui, ils ont complètement raison. La loi a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, mais le projet de loi a subi, au cours de la commission parlementaire, plus de 40 amendements. Donc, c'était impossible de préparer la réglementation avant ou pendant, tant que tu ne connais pas la teneur des amendements. Si on a présenté quelques 40 amendements, c'est parce qu'on a écouté les gens qui sont venus à la commission parlementaire. Il y a une quarantaine de groupes qui sont venus, chacun avec des idées pour bonifier le projet de loi. On l'a bonifié. Ça a ralenti la mise en application des règlements, mais ça va bouger assez rapidement dans les secteurs d'activité, surtout si on parle de production agricole, là, où ils ont des codes de bonnes pratiques qui sont à jour. Au lieu de retravailler de nouvelles réglementations, on va se baser sur ces codes de bonnes pratiques-là et possiblement que le code de bonnes pratiques, s'il est moderne, va devenir la réglementation. Donc, on va pouvoir débouler plus rapidement.
Mais on pourrait appeler ça un peu d'auto-réglementation, mais quand même sous supervision oui. Des gens du MAPAC.
C'est de l'auto-réglementation, pas strictement sous supervision des gens du MAPAC, mais ces codes-là sont généralement pan-canadiens. Supervision de l'ensemble des ministères de l'agriculture, des différentes juridictions. Et au Québec, en commission parlementaire, on a établi clairement le message. Si le code est moderne et nous projette vers l'avenir, ça va devenir notre réglementation. Si c'est quelque chose de désuet et on ne se modernise pas, on va réglementer parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va échapper des marchés. On parlait de McDonald's tantôt, on pourrait parler des poules pondeuses, puis des œufs chez Burger King, puis etc. Ça s'en va dans cette direction-là. C'est incontournable. On était en retard au Québec, lorsqu'on a adopté cette législation-là, il faut prendre des fois les bouchées doubles, mais tout en respectant la capacité d'investissement de nos agriculteurs.
La réglementation sur les fruits et légumes. Cet été, il y a des gens qui ont sursauté à voir disparaître certaines obligations, l'obligation ou l'identification de provenance, entre autres. À quel moment, je présume que ce sera très prochainement, vous allez revenir avec un règlement sur les fruits et légumes?
Oui, bien, la commande, ce qu'on peut exprimer ainsi, parce qu'on est à l'épicerie, n'était pas d'enlever le pays d'origine ou la province d'origine. Au contraire, le consommateur a le droit de savoir et il veut de plus en plus savoir. On a demandé à nos gens de faire en sorte que la vente de légumes moches, là, la carotte qui n'est pas droite ou le navet qui n'est pas tout à fait rond, soit autorisée. C'était illégal de vendre ça au Québec avant. Avec l'augmentation du prix des fruits et légumes, 18 % à peu près l'an passé, on s'est dit en autorisant les légumes moches, on va permettre aux consommateurs qui ont moins les moyens de manger ces légumes pour sa santé. En faisant ça, bien, on a commis une petite erreur, dont j'assume, moi, là, quand t'es ministre, t'assumes tes responsabilités. Ils ont enlevé le produit du Québec. Lorsque j'ai été avisé, en 30 secondes, j'ai passé la commande de corriger cette situation. Il faut que le produit du Québec demeure.
Mais au moment où vous l'avez fait, le règlement avait déjà été abrogé, donc il faut refaire un certain processus.
Il faut refaire le processus au complet. C'est un processus qui prend un certain temps, mais je me suis promené un petit peu. Les gens ne l'ont pas enlevé parce que c'est un élément de vente. Quand vous dites « produit du Québec », le consommateur est enclin à l'acheter davantage. Donc, il n'y a pas personne qui a enlevé sa pancarte.
Ça serait suspect de voir des gens qui ne le mettraient pas, là.
Ça serait très suspect, puis on se demanderait ce qui se passe. Ça a fait un petit choc dans la machine administrative qu'on appelle sur le plan politique, on l'a réglé en 30 secondes sur le plan de l'intention politique. La presse a bien collaboré, ils ont constaté la situation et tout le monde s'attend à ce que ça demeure l'identification d'un produit québécois.
Monsieur le ministre Pierre Paradis, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Levac. Bonne journée.
Ici Lionel Levac. Le ministre Pierre Paradis est par ailleurs dans les préparatifs des rencontres préparatoires à son sommet de l'alimentation. Même si l'UPA, l'Association des détaillants en alimentation et le Conseil de la transformation alimentaire estiment que l'exercice n'est pas nécessaire, ces organisations participeront tout de même aux rencontres. Tout cela est à suivre. À bientôt.